par rapport alors aux grandes séries des grands hommes d'histoire, de guerre et de révolution et de grands empereurs criminels, et en essayant d'éviter la platitude habituelle morale qui consiste à dire tout ça c'est mal et par conséquent il n'y a rien ni personne derrière, moi je considère que Mao comme subjectivité représente une question très très fondamentale, et de même qu'il est intéressant de se demander pourquoi Hitler avait cette paranoïa là à ce point, pourquoi Staline était aussi limité dans ses gestes et ses expressions, se prenait peut-être pour Héraclite, mais en réalité n'était qu'un séminariste orthodoxe défroqué. De même, il est parfaitement légitime, à mon avis, de se demander pourquoi Mao a été ce révolutionnaire, ce grand révolutionnaire et homme de guerre, avec quelle subjectivité. Alors là, la particularité de Mao Tse-Tung me semble de nouveau à réaffirmer, parce que l'économie de la mythologisation permet, dans la mesure où il s'agit d'un Chinois et de la Chine, d'évacuer complètement la subjectivité intrinsèque de la question. On vit avec Hitler tous les jours, il en est question tous les jours dans les journaux, de cette folie énigmatique. On vit avec Staline encore, puisque les cadavres sont dans tous les placards occidentaux. Mais avec une image simplificatrice de Mao, c'était mal, et par conséquent, il ne faut plus en parler. On laisse complètement en blanc, et je trouve ça très dangereux pour la pensée, ce qui est apparu avec Mao Tse-Tung. Et donc, à l'époque, ça m'intéressait beaucoup pour des raisons de... Alors vraiment, qui sont des raisons d'époque, mais ça continue à me paraître un sujet du plus grand intérêt. Et j'en parlais à l'époque avec... au moment où je traduisais les poésies de Mao Tse-Tung, j'en parlais avec Joseph Needham, qui était en train de faire sa monumentale encyclopédie qui s'appelle Science and Civilization in China aux presses de Cambridge, et je lui demandais des confirmations sur des détails justement de l'appartenance que je croyais discerner, et il me disait que j'avais raison, au taoïsme le plus fondamental chez Mao, et je crois que là c'est une question de plein droit, vraiment de fond, c'est-à-dire que si tout le courant philosophique qui a abouti au marxisme, c'est chez cet individu-là, je ne dis pas sur les Chinois en général, mais sur cet individu-là, puisque la question est vraiment très singulière, hein, greffée sur un fond de logique bouddhiste, alors je crois que la question mérite, en effet, qu'on s'y arrête.
Et vous aviez aussi traduit en partie, du moins, je crois, de la contradiction. Alors, oui, vous écriviez en même temps dans H, un moyen d'y voir sans penser Mao.
Eh bien, je continue à penser que sur la contradiction de Mao Tse-Tung, qui est un texte que j'ai étudié très précisément à l'époque, est un chef-d'œuvre de raisonnement. Et que si l'on veut pousser en dehors de la logique occidentale, de la philosophie aristotélicienne ou hegelienne, la question de l'analyse des contradictions, le texte de Mao Tse-Tung, dans sa simplicité, dans sa clarté, fondée sur la façon dont fonctionne la logique chinoise la plus traditionnelle, vous pouvez évidemment mettre les éléments marxistes en avant, vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que le fond est une question de logique chinoise. Par exemple, l'articulation entre contradiction principale et contradiction secondaire, entre aspect principal et aspect secondaire de la contradiction principale, ou entre aspects principaux et secondaires de la contradiction secondaire, cette ramification de la contradiction, cette façon d'établir une analyse sur plusieurs niveaux, dialectise de façon beaucoup plus fine, de façon beaucoup plus, j'allais dire, casuistique, pour faire appel aux jésuites dont on sait que la Chine les a fascinés, tous ces problèmes de la contradiction que nous traitons en général avec une logification manichéenne, entre guillemets, blanc et noir, bien et mal, etc., avec une façon très pauvre.
Oui. Là, c'est-à-dire, on introduit un concept là où, en fait, il s'agit d'autre chose.
La subtilité de ce texte me paraît encore aujourd'hui énorme, n'est-ce pas ? De même que la beauté intrinsèque de certains poèmes qui sont d'ailleurs dans la tradition de la reprise cursive d'un moine mystique du XIIIe siècle, comme tout le monde le sait, la calligraphie de Mao le prouve. Alors il y a eu un contre-investissement là-dessus, très très fort, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'individu Mao, qui moi me paraissait extraordinaire dans sa chevauchée fantastique, quand même la longue marche, c'est pas une bande dessinée, et c'est pas quelque chose dont on peut utiliser le motif pour, je ne sais pas, moi, une publicité aujourd'hui, enfin une publicité dans le style Coca-Cola. Là, c'est quelque chose d'énorme. Et le personnage de Mao me paraît encore aujourd'hui extraordinairement singulier et je dirais même émouvant.
Réponse à un ami. 1961. Nuages blancs volant sur les 9 sommets. Pente verte. Fille de l'empereur descendant le vent. Une branche de bambou tachetée. 1000 larmes. 10 000 nuages rouges. 100 couches d'habits. Lac Dongting. Tourbillon, vague, neige, lié au ciel, sur l'île, chant des poèmes ébranlant la terre. D'où mon désir, rêver dans l'espace vide, partout sur le pays fleuri, soleil du matin.